reverra progressivement cela. C'est que l'analogie nous permet de saisir les modalités de la réalité, l'aspect qualitatif. Et c'est par cet aspect qualitatif que nous pouvons découvrir le primat de l'être. C'est toute la question, si vous voulez, qu'on verra à propos de l'un du multiple. Est-ce que c'est l'être qui est avant l'un, ou est-ce que c'est l'un qui est avant l'être ? Dans l'expérience du vécu, l'un est toujours premier. S'agisse en logique, en mathématiques et dans nos expériences. Alors comment pouvons-nous dépasser l'un pour atteindre l'être ? C'est le jugement d'existence. Dans le jugement d'existence, l'être est antérieur. Et si je prends l'ordre génétique, l'un est premier. Si je prends l'ordre de nature, l'être est avant l'un. Je crois que c'est là où on peut le mieux saisir. Comment l'un est propriété de ce qui est. Et donc présuppose ce qui est. Mais la propriété est toujours pour nous ce qui manifeste. Donc elle est première dans le vécu. On se sert de l'un pour découvrir le principe dans l'induction. Vous découvrez un ordre, une multiplicité ordonnée. C'est-à-dire vous découvrez dans la multiplicité une certaine unité. Et c'est cette unité qui vous oblige de dépasser l'ordre et de saisir la source de l'ordre. C'est donc bien par l'un que je saisis l'être et la source de l'être, inductivement. Et cependant, l'être est antérieur dans l'ordre de perfection à l'un. Jugement d'existence. Mais on le verra beaucoup mieux, plus explicitement, dans le problème de l'un du multiple. Vous sembliez dire, hier, que l'être mathématique est moins être de raison que l'être logique. Vous expliquez, moins être de raison. Prenez l'inverse, hein. Dire que l'être mathématique n'est pas seulement être de raison. C'est plus juste de dire ça, parce que l'être de raison n'est pas la mesure de l'être mathématique. L'être de raison, c'est l'être logique. C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. L'être mathématique n'est pas un être logique. Existe par la connaissance. je suis relative à lui. C'est dans ce sens-là que je dis relation substantielle, parce qu'elle atteint quelque chose de substantiel. Je suis relatif à un absolu, par l'amitié. Je suis tout entier tourné vers. Et l'ami est lui-même tout entier tourné vers moi. Donc, il y a l'unité qui se fait dans ce choix d'amis. Et l'un et l'autre sont relatifs. L'un à l'autre. C'est ce qui explique pourquoi on a tellement peur de l'amitié. Parce que dès qu'on choisit quelqu'un pour être un ami, on se lie à lui. On devient relatif. Or, nous avons en nous une sorte d'égoïsme métaphysique qui fait qu'on n'est bien que en soi. Que personne ne te dérange, on serait parfaitement bien. Cet égoïsme métaphysique, c'est la substance. C'est notre personne. C'est notre autonomie. C'est notre indépendance. La substance fait qu'on est source d'être. Et on est en soi-même et par nous-mêmes autonomes. Bienheureuse autonomie, vous voyez. Tandis que dès que j'aime, dans l'amour d'amitié, je suis obligé de me dépasser, de n'être plus moi-même et de devenir relatif à l'autre. Et je suis tout entier relatif à l'autre par l'amour d'amitié. Et j'ai conscience de ce don. Alors, le don n'est pas la relation, faisons attention. Hein. Dites, ah, mais alors l'amitié, c'était qu'une relation. Attention, non. L'amitié, l'amour d'amitié vous fait comprendre ce que c'est que la relation. Ce que c'est qu'être relatif à quelqu'un. Ce que c'est que d'être donné à quelqu'un. Et ce que c'est que recevoir le don de quelqu'un. Que quelqu'un me devienne relatif. C'est à l'intérieur de l'amour d'amitié que je fais cette expérience. Et je le fais au niveau de ma propre personne. Je suis capable de me donner, c'est-à-dire de choisir quelqu'un qui est mon bien, vers qui je me tiens tout entier, vers qui je me tourne tout entier. Je suis tourné vers lui. L'ami est tourné vers lui. Et l'ami n'a d'être que dans la mesure où il est tourné vers son ami. Un ami qui se met à se retourner vers lui-même pour regarder son indépendance. À ce moment-là, il n'est plus l'ami. C'est une chose très très curieuse que l'amour est capable de me mettre relatif dans tout ce que je suis, donc dans ma propre substance. Dans ma propre personne, me mettre relatif au bien que j'aime, au bien-aimé que j'aime, à la personne que j'aime. Et dans l'amour d'amitié, il y a en même temps le fait de recevoir l'amour de mon ami. Je suis tout entier réceptif à son égard. Et si je suis tout entier réceptif à son égard, je suis donc capable de le recevoir. Et je ne suis capable de le recevoir que dans la mesure où je suis relative à lui. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui est premier ? Ce qui est premier, c'est d'aimer. Et parce que j'aime, je deviens réceptif. Et l'autre, l'aspect du bien qui est premier dans l'ordre de l'amour d'amitié. Et dans la mesure où je suis attiré, polarisé par ce bien, je suis tout entier tourné vers lui. Et dans la mesure où je suis tourné vers lui, je deviens réceptif à son égard. C'est l'amour qui me rend accueillant. Quand je n'aime pas, je ne suis pas accueillant. Je suis premièrement conscient de mon autonomie. Alors, je ne dis pas que l'amour d'amitié me fait perdre mon autonomie, non. Me fait dépasser mon autonomie. Mais elle demeure toujours. Parce que seule une personne est capable d'aimer. Donc, il est nécessaire à l'amour d'amitié que ce soit deux personnes qui soient relatives l'une par rapport à l'autre. Et je ne suis capable d'aimer que dans la mesure où je suis moi-même une personne qui possède son autonomie. Quelqu'un qui n'a aucune autonomie est incapable d'aimer. C'est là où on voit comment la relation ne peut pas être la relation de la relation. Là, vous en avez la preuve tangible, au point de vue de l'expérience. Des quantités d'amitié se perdent en fonction de ça, à cause de la passion. La passion me rend relatif à celui que j'aime, c'est sûr, et je ne vis que pour lui. Et je suis entièrement possédé par lui. Si je me laisse aller à la passion, je n'ai plus aucune autonomie. Et je ne peux plus aimer spirituellement. C'est dans ce sens-là que la passion peut étouffer l'amour spirituel. Et en étouffant l'amour spirituel, la passion tue l'amour. Et au niveau passionnel, on passe très vite de l'amour à la haine. C'est très curieux. C'est les personnes qu'on a aimées passionnément qu'on va haïr passionnément. Parce que elles n'ont plus assez d'autonomie. Et elles détruisent l'amour. C'est le jeu de tous les romans, ça. Dans tous les romans, vous savez, et là, c'est pas seulement les romans, c'est quelquefois la vie. Tout court. Parce qu'on n'a pas assez éduqué l'amour. C'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est d'aimer. On croit que c'est spontané, l'amour, pas du tout. Il y a un amour instinctif, passionnel, mais ce n'est pas le véritable amour. C'est un amour d'accaparement. Oui. Celui qui devient uniquement relatif à l'autre l'accapare, puisqu'il ne vit que si il est relatif à lui, donc il l'accapare pour vivre. Et ça devient farouche. Alors à ce moment-là, l'ami vous étouffe. Il y a des amis qui vous étouffent. Et alors on a une réaction vitale, violente, de le repousser pour vivre. Parce que l'amour passionnel est un amour captatif. Et comme c'est un amour captatif, il prend celui qu'on aime pour nous. Et on l'enferme en nous. Et en l'enfermant en nous, on l'étouffe. Et en l'étouffant, il faut s'attendre à la réaction vitale d'une autonomie qui était sous-jacente et qui était comme dominée par la passion. Et cette autonomie réagit violemment et repousse l'autre. Il faut découvrir ça. Parce que ça, c'est vital. C'est la vie constante, ça. Et c'est ça qui fait saisir, vous voyez, comment l'amitié, qui est une relation substantielle de l'ami à l'ami, implique nécessairement l'autonomie personnelle. Je n'insiste pas plus, on a déjà vu longuement ce que c'était que l'amitié en éthique. Ici, je ne regarde plus du côté éthique. Je me dis, qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est la noblesse de la relation. L'ami est relatif à l'ami. L'autre expérience de la relation, diamétralement opposée, c'est l'universel. Alors, essayez de saisir ce que c'est que l'universel. Vous saisissez à partir de la signification. Vous prenez la signification de animal, puisque c'est le terme que nous connaissons le mieux. C'est ce qu'il y a de fondamental en nous. Il y a toujours en nous un petit animal qui se cache très bien, mais qui de temps en temps renaît avec une violence extraordinaire. Puisque tout ce qui est commun de l'homme avec l'animal n'est pas proprement humain, dit le vieil Aristote. Faut de temps en temps rappeler ça. Qu'est-ce qui est commun entre nous et l'animal? Nos passions, nos instincts, c'est commun entre l'animal et nous. Ce n'est pas proprement humain. Ce qui est humain, c'est l'amour spirituel. On a choisi. Et beaucoup d'êtres humains n'arrivent pas à ce niveau-là. Surtout aujourd'hui. Ils ne dépassent pas la passion. Ils ne dépassent pas l'imaginaire. Ils se sont fait une idée de l'amitié. Mais l'amitié n'est pas une idée. C'est aimer quelqu'un. On n'épouse pas Miss Idéal. Parce qu'elle n'existe pas. Sauf pour le concours qu'aux exemplaires. On épouse une personne. On choisit un ami. signification de l'animal, signification une, générique. Et ce quelque chose de commun, je ne scène. L'universel a 5 modalités. C'est extraordinaire, vous voyez. L'universel a 3 relations. Et l'universel a 5 modalités. Chaque modalité a 3 relations. Alors, vous voyez ce que ça fait. 3 fois 5, 15. Vous êtes donc en face d'un tissu de relations. La toile d'araignée. Dès que vous voyez les 5 prédicables, ce qu'on appelle les 5 prédicables, donc le genre, différent spécifique, espèce, propriété, accident. Personne trop sérieuse qui ne rit jamais. Ça va pas. pouvait le saisir de cette manière pour l'homme. Pour la petite araignée, difficile de saisir la différence spécifique de l'araignée. Difficile. Vous saisissez plutôt sa propriété. Elle fait une toile. Cet animal fait une toile d'araignée. Ce qui est très curieux. Sans le savoir. Et elle fait ça admirablement. Si vous la laissez faire, admirez une toile d'araignée. C'est beau. C'est harmonieux. Elle dessine parfaitement l'araignée. Elle fait ça. Comme finalité, prendre la mouche. Et elle est là pour guetter une fois qu'elle a fait ça. Alors, voyez donc, à partir de là, qu'est-ce que c'est que la relation ? J'unis deux termes. Le contenu unifié de la signification du genre animal avec une quantité d'individus. Il y a une relation qui unit un multiple. Et là, c'est une relation. Relation d'origine, relation d'attribution, relation d'inhérence. Vous avez trois relations. Et qu'est-ce qui a fait ça? C'est votre intelligence. Et elle l'a fait instinctivement, naturellement. Votre toile d'araignée. Pour capter la réalité. Pour la prendre. Alors vous pouvez regarder le résultat. Et le résultat, vous le voyez par le langage. Parce qu'il y a un mot particulier pour chacun des prédicables. Je vous l'ai donné là. Tout le langage repose sur l'universel. Et sur ses modalités universelles. Alors, c'est bien une relation, puisque c'est un lien entre le multiple et l'un. Mais c'est une relation de raison, parce qu'elle n'existe que dans l'intelligence. Mais c'est peut-être là où vous saisissez la relation à l'état pur. L'universel, c'est uniquement une relation. Dire au chien qu'il est animal. morale, c'est très peu personnel. C'est l'anonymat, le on, qui est toujours au niveau de l'universel. Le on que Heidegger aime si bien. Il a horreur du on. On dit cela parce qu'on est dans l'universel. Il y a la perte de la personnalité. Et c'est vrai, la logique n'est pas personnelle. Elle est purement objective. Elle n'est pas personnelle. L'amitié est personnelle. Donc vous avez là deux extrêmes. J'insiste pour que vous compreniez bien les deux extrêmes. L'une, relation de raison. L'autre, relation personnelle. Qu'est-ce qui me permet? Alors là, j'entre dans l'analyse. Qu'est-ce qui me permet de dire d'un côté relation de raison et de l'autre côté relation personnelle? C'est que je vois que la relation est quelque chose de complexe. Ça me paraît simple et c'est complexe. La relation en raison de son aspect extrêmement fragile, ténu, implique un fondement. Toute relation implique un fondement. Elle s'appuie sur quelque chose qui n'est pas la relation. Parce que elle est quelque chose qui me met relatif à un autre, qui me fait sortir de moi. Et donc, elle ne peut pas, par elle-même, exister. Elle n'existe que grâce à un autre. Donc, au point de vue de l'être, vous voyez, au point de vue de l'attribution, elle existe par elle-même, c'est évident. Mais au point de vue de son être, ce qu'Aristote a très bien saisi par les catégories, si je veux savoir quel est l'être de la relation, je suis obligé de comprendre que tout terme relatif implique un fondement. Le fondement est où? La connaissance pour l'universel. Si je n'aime pas, je ne rencontrerai jamais mon ami. Et il n'y aura pas de relation. Si je ne connais pas, si je n'appréhende pas, il n'y aura jamais de connaissance. Il n'y aura jamais d'universel. Donc je vois que ces deux relations se fondent sur deux fondements tout à fait différents. Qu'est-ce qui me permet de différencier une relation de raison d'une relation réelle? C'est que la relation de raison se fonde sur la connaissance et la relation réelle se fonde sur une réalité existante. Ça, c'est déjà quelque chose de très important à comprendre. On va aller un peu plus loin. Toujours dans l'analyse. Analyser qu'est-ce que c'est que le relatif. Qu'est-ce que c'est que c'est cette détermination particulière du relatif. Je vois que l'exercice de la relation, c'est toujours à l'égard de deux termes. Un face-à-face. L'ami est face à son ami. L'universel, c'est l'un vers le multiple. C'est animal face à chien, chat, homme. Donc, ce qui est le propre de la relation, c'est de mettre deux termes en corrélation. Et je dis bien en corrélation, c'est-à-dire une relation avec. La relation implique toujours la corrélation. Je ne peux pas être en relation avec la relation. Je ne peux être en relation qu'avec un autre avec qui je suis en relation. la relation implique toujours deux termes corrélatifs. Et elle n'existe que grâce à ces deux termes corrélatifs.